Et donc, je me suis dit, dans les années 70 environ, si on fait pas un répertoire des fruits, des conditions géologiques et climatiques qui font un site de qualité, des variétés, toutes ces choses-là, et si on ne se met pas à les refaire et à les faire goûter, on finira au bout d'un certain temps à ne plus savoir ce que c'est qu'un vrai site. Il fallait bien faire la preuve d'une authenticité et d'une caractéristique qui va transmettre cette typicité, quoi.
Poké pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, c'est pas
l'apéro. Vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.
Donc nous voilà dans le musée maritime de Jacques. Je vois qu'il y a des jolis tableaux, il y a beaucoup de photos aussi, anciennes.
Bah oui, bah oui, c'est l'histoire maritime de la famille et des familles du Goëlo en général. Parce que presque tout le monde avait la même histoire ici. Histoire maritime tout le temps. Sur 4 à 500 ans en arrière, quand on remonte les ancêtres, ils sont tous marins, capitaines de long cours, et depuis assez longtemps, 1600, 1650, tout ça. Ouais.
Et le Goëlo, ça rassemble quelles communes, si on peut définir une zone?
Le Goëlo, c'est Bréa, de Bréa à Saint-Brieuc, hein, limité par le Gouët.
D'accord.
Bon, le Goëlo, je dirais, le Goëlo maritime est limité par le Lef, et le Grand Goëlo va jusqu'à Guingamp, au Trieux. Et à une époque même, il a été jusqu'à la Roche-Derrien, Camelez et ces coins-là, où on retrouve des noms bretons du Goëlo dans le Trégor. Et ça remonte sans doute à l'époque de Jeanne la Flamme, Jeanne de Montfort, où il y a eu la fin de la guerre de Cent Ans du côté de la Roche-Derrien.
D'accord, on va raconter l'histoire. Hein. Vous êtes vraiment au cœur du Goëlo?
Tout à fait, oui, on est en plein dedans, dans la zone... Je dirais, d'un point de vue géoclimatique, la zone de prédilection des cidres, si on veut, l'usage a montré que cette zone-là était quand même une zone très favorable à des productions de qualité. À Rome, le sous-sol s'y prête bien, les conditions géologiques et climatiques sont favorables. Ce qu'on a beaucoup ici, c'est du grès schisteux, une couche très épaisse, c'est un grès friable, qui ne vaut rien pour la maçonnerie, mais qui est intéressant pour le sous-sol. Bon, on a du granit comme partout, mais on a aussi un limon éolien en surface depuis 15 000 ans, quand la Manche était glacée encore, puisque la mer du Nord, tout ça, c'était en fait l'estuaire d'une grande rivière qui arrivait du Rhin et puis qui s'ouvrait sur la Manche et l'Atlantique après, quoi.
D'accord.
Et donc, ce dépôt éolien est visible sur les falaises, donc à 500 mètres de chez nous, hein, comme partout. Et puis, on n'a pas de gelée au printemps, on a un ensoleillement assez important, on arrive à sortir des sites qui sont colorés, sucrés, puissants, qui se tiennent. Et on n'a pas besoin de faire des sites technologiques si on veut, quoi.
On respecte la nature.
Oui, tout à fait. Alors, en travaillant en bio, en nature, on arrive à avoir des produits sympas, des produits de qualité, et puis toujours des arômes qui valent le coup, quoi. On est quelquefois un peu surpris de la structure aromatique. Beaucoup de gens nous le disent. C'est étonnant parce qu'on ne trouve pas ces goûts-là facilement ailleurs, quoi. Ça s'est révélé au fil des siècles, certainement. Nous, on n'y est pour rien. On ne fabrique pas l'histoire, hein. Et puis, on a des terres qui ne sont pas humides, on n'a pas de niveau d'eau affleurant. On est aux environs de 650 mm d'eau par an, 620 à 650. Ça fait quand même pas beaucoup.
Non, c'est sûr.
On a eu des gens du Sud qui nous ont dit, mais vous êtes plus sec que dans le Sud. Je dis, peut-être, mais ici, on a de l'eau de temps en temps et un petit peu toute l'année. Chez vous, vous en avez beaucoup d'un seul coup et plus rien après, quoi.
Et du coup, comment vous en êtes arrivé à faire du cidre? Alors, c'est de famille, j'imagine, ou ça retranscrit?
Oui, bon, on en a fait dans la famille, mais toutes les familles faisaient du cidre. Autour de Saint-Quay, Plouran, Trévenec, Binic, on avait à peu près 400 pressoirs dans les maisons. D'accord. Il y en avait partout. Tout le monde faisait du cidre. Et parce qu'il n'y avait pas de bière, il n'y avait pas de vin, et tout le monde consommait du cidre.
Et là, on est à quelle époque quand tout le monde fait du cidre ?
Eh bien, jusqu'à... On peut dire jusqu'à la Première Guerre. D'accord. Jusqu'à la guerre de 14, quoi. Mmh. Bon, après, il y a eu des vins qui sont arrivés par le biais de la guerre de 14. Il y a eu le Cambuseur, le fameux Cambuseur, le vin de l'armée pendant les guerres. Mais, et puis après, il y a eu les vins d'Algérie, toutes sortes de choses. Mmh. Il y a eu aussi les vins qui ont disparu. Par exemple, les vins du centre de la France, du Massif central, eh bien, les vins ont disparu avec le phylloxéra. Et les hommes sont morts à la guerre. Si bien que les vignes d'Auvergne, alors que l'Auvergne était un des plus grands vignobles de France, fait pour faire des vins, non pas comme aujourd'hui de dégustation, mais des vins pour les ouvriers, pour les familles agricoles. Eh bien, ce vignoble-là a disparu, faute de bonhomme, et à cause du phylloxéra. Et il commence à renaître maintenant. Alors, chez nous, le cidre, ben, comme on ne pouvait pas faire du vin à cette époque-là, parce que les conditions ne s'y prêtaient pas, peut-être aussi les conditions de pH du sol, parce que pour la vigne, on est plutôt pH 7, et que ici le pommier, pH 5, 5, 6, ça va très bien, 5, 5, 6, 5, quoi. Donc, on peut penser que, naturellement, ici, on faisait du cidre, et ça correspondait bien aux populations agricoles, comme boisson de travail, boisson de tous les jours.
Donc ça a été un héritage familial, finalement, de reprendre
voilà. ça. Alors du coup, oui, un héritage familial, et notamment au travers de la mer, puisque les goélettes, pour aller à Islande, ne consommaient que du cidre, parce qu'il n'y avait pas de vin et pas de bière, et l'eau pourrissait dans les fûts. Donc quand on allait à Islande, alors comment on calculait une provision pour aller à Islande? C'est pas compliqué. 6 mois de campagne, ça fait 180 jours, 25 hommes sur une goélette, c'est un bateau qui fait 37 mètres de long, à peu près, pour pêcher la morue. Donc 180 par 25, ça fait 4500. Ça correspond à 1 litre par jour et par bonhomme. Et puis, on avait l'eau de vie dont... Alors là, le capitaine avait la clé de la cambuse, bien sûr. Il était le seul à pouvoir distribuer le boujaron à discrétion, parce que le boujaron, c'était quand même quelque chose qu'on consommait avec un rituel. C'était une coutume, c'était pas une loi, hein, c'était une coutume. Il fallait qu'il fasse moins de 5 degrés à 9h le matin en mer pour avoir droit au boujaron à bord.
Embarqué jadis sur les goélettes du goélo... Pour la pêche à la morue, le boujaron était l'eau de vie à laquelle avaient droit nos anciens marins pour affronter le rude métier des bancs d'Islande ou de Terre-Neuve. Aujourd'hui, le boujaron est une eau de vie de cidre élaborée à partir des meilleurs cidres du comté. Mise à vieillir en fût de chêne, entourée des soins les plus délicats, ce n'est qu'au bout de plusieurs années qu'il acquerra toute sa finesse, affirmant alors comme un grand ambassadeur du terroir du goélo. C'est beau.
Ah, ça donne envie, hein. Donc là, le boujaron, on n'est plus sur du cidre, on est sur une autre vie de cidre.
On est sur une autre vie de cidre, alors qui a été de temps en temps. Alors quand on faisait le Cap Horn, par exemple, il faut bien comprendre que le boujaron, c'était une autre vie administrative et réglementaire qui était gérée par les douanes issues de stocks administratifs et réglementaires, gérés par les douanes. Ça veut dire que quand on faisait, par exemple, le Cap Horn, les bateaux qui partaient, c'était le cas, le frère de ma grand-mère, Alphonse de Molic, capitaine de long cours à la compagnie Borde, il partait de Swansea au Pays de Galles, il faisait cap sur les îles d'Amérique centrale, où là, il faisait le plein de boujaron, mais c'était du rhum, parce qu'il n'y avait pas d'eau de vie de cidre là-bas.
Tout à fait.
Donc, pour passer le Cap Horn, après on remontait, on passait le Cap Horn, ce qui était toujours périlleux. Après, on remontait les côtes du Chili. Enfin, avant le Cap Horn, on passait d'abord au large de l'Argentine, où on courait le risque avec les pamperos, c'est les vents de la cordillère des Andes qui dématait les bateaux quelquefois. On passait le Cap Horn, où là, on attrapait les brises d'ouest qui font le tour de la Terre. Et on remontait sur le Chili, tout ça. Et puis, arrivé au Chili tout en haut, ben, quelquefois, il y avait un télégramme par les sémaphores. Et là, il fallait partir en Australie pour chercher du blé. Et on revenait que 2 ans après. Fallait subsister d'une façon ou de l'autre, quoi. Quand on faisait Terre-Neuve, le boujaron, c'était à ce moment-là, c'était du tafia, un distillat. Alors le tafia, c'est un distillat de mélasse, tout simplement. C'est bien défini par les douanes. Et puis quand on faisait Islande, comme on passait toujours à La Rochelle, à Saint-Martin-de-Ré, on passait Gibraltar pour vendre la morue à Marseille ou en Afrique du Nord, on prenait du sel à Cadix et on prenait du sel à Saint-Martin-de-Ré et on reprenait de l'eau de vie à La Rochelle en passant. Donc on a des factures ici, notamment de Marie Carfentan, la femme de Louis Véry, le grand armateur de Binic, qui passe commande à Léon Martin à La Rochelle en lui disant « Ma goélette Jeanne passe dans ce coin-là, pourriez-vous m'envoyer vos meilleurs prix pour faire un chargement pour la campagne suivante ?» Donc là, c'était de l'eau de vie des Charentes. Et donc, maintenant, on va dire, mais à quel moment le Bougeron était-il de l'eau de vie de cidre ? Alors là, c'est une histoire familiale très simple que tout le monde a connue. J'avais, comme tout le monde, deux arrière-grands-pères. Un qui était capitaine à Islande et l'autre qui s'appelait François Le Bars, qui était de Goudelin, et qui avait monté l'entreprise du four à chaud à Saint-Quay. Il faisait venir sa pierre à chaud de Régnéville à côté de Coutances et son charbon de Swansea, Pays de Galles. Bon, donc il y avait tout un commerce autour de ça. Et quand l'arrière-grand-père, capitaine à Islande, revenait fin août avec ses marins, l'autre arrière-grand-père réembauchait les marins pour faire le quart le long du four à chaud, au four à chaud qui marchait 24 heures sur 24 pendant l'hiver. Il disait, vous avez été au froid pendant tout l'hiver précédent, moi je vais vous mettre au chaud maintenant. Alors bon, là les gars mis au chaud, mais les gars, ils n'avaient pas perdu le nord. Et oui, mais François Le Bars, enfin Soye Bars, comme on l'appelait en breton, quoi. S'il n'y a pas le Bougeron, ça ne va peut-être pas le faire. Hein. Ah, mais il dit, pas de problème, le Bougeron ici, il y a d'autres vitides, il y a tout ce qu'il faut, donc on fait le Bougeron avec de l'eau de vitide. Et on a un écrit là-dessus de Ange Malenfant qui a écrit un livre qui était un copain de mon grand-père également, de Kertugal, ici à l'autre bout de Saint-Quay, et qui lui parle du Bougeron dans les bistrots partout dans le pays. Quoi.
Donc votre grand-père, votre père faisait du Bougeron, faisait du cidre, faisait les deux ?
Oui, bah, toute la famille. Mais il y en avait de tous les côtés, les oncles et les tantes aussi faisaient du cidre et puis du. Ouais, c'était un sacré truc. Hein,
tout le monde était baigné dedans, quoi.
Ah oui. À Trèveneuc, Marguerite Botrel, qui était la sœur de mon arrière-grand-père, elle avait un four à pain, mais faisait aussi du cidre. Et je me rappelle, à l'inventaire au décès, elle avait 6000 litres de cidre dans sa cave.
D'accord, quand même.
Alors, une autre, à Saint-Brieuc, le propriétaire de la ferme de la... Alors, je suis obligé de dire, Françoise de Glatin, la mère de mon arrière-grand-mère. On remonte à loin, 1881.
Et quand même.
Ouais. En 1881, le propriétaire de la ferme était en même temps armateur. Il avait des parts sur le bateau. Il était armateur à Islande, au Légué. La ferme là-bas était... donc c'était une assez grande ferme. On a estimé à 45 hectares d'après l'inventaire au décès. Donc c'était une grosse ferme. Mmh. Il y avait 30 000 litres de cidre dans la cave. Enfin, 30 000 litres de cidre pour la commercialisation. Il commercialisait du cidre dans les bistrots de Saint-Brieuc.
D'accord.
Et 6 à 8 000 litres de cidre qui étaient pour les ouvriers agricoles de la ferme, donc la provision personnelle pour la ferme pour alimenter les ouvriers. Il y en avait partout. Et quand j'étais petit avec mon grand-père, on allait se balader le dimanche, on faisait souvent 8 ou 10 km à pied. Quand on voyait un verger, on regardait le verger, on le découvrait. Mmh. Et puis on allait dans la ferme demander si on pouvait goûter le cidre. C'était compris... Bien compris de tout le monde, on goûtait le cidre, et puis du coup, on faisait la comparaison entre ce qu'on avait goûté, puis ce qu'on avait vu comme s'il y avait des bonnes pommes, tout ça, et puis éventuellement, ben, on pouvait prendre des greffons et les reproduire.
D'accord. Ouais, c'était vraiment un échange, et ça s'est fait dans l'expérience.
Ah ouais, alors moi j'étais tout gosse, moi j'avais à ce moment-là, j'avais quoi, 7-8 ans. Avec le grand-père, je faisais sans doute 10 à 15 kilomètres de balade dans les champs un peu partout. Ouais, c'était sympa. Ouais.
Et du coup, quand vous vous êtes lancé, vous, à votre propre compte, si on peut dire vraiment vous professionnalisez dans le monde du cidre ?
Alors, je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est dans les années 70 par là, je me suis dit, si on ne fait pas quelque chose pour sauver le cidre authentique, parce qu'il y en avait des très bons, il y en avait qui n'étaient pas bons non plus dans les fermes, hein, mais il y en avait qui étaient bons. Et on savait, parce qu'on désignait souvent les gens en disant, tu peux aller chez celui-là, il y a du bon cidre. Et donc, je me suis dit, dans les années 70 environ, si on ne fait pas un répertoire des fruits, des conditions géologiques et climatiques qui font un cidre de qualité, des variétés, toutes ces choses-là, et si on ne se met pas à les refaire et à les faire goûter, on finira au bout d'un certain temps à ne plus savoir ce que c'est qu'un vrai cidre. Il fallait bien faire la preuve d'une authenticité et d'une caractéristique qui va transmettre cette typicité, quoi. Alors j'ai fait une recherche de variétés, j'ai fait des essais, j'avais monté un genre de micro-atelier, quoi, où je faisais plusieurs barriques par an, et puis je faisais des dégustations, et puis je les faisais goûter, puis j'essayais d'aller comparer avec d'autres, et puis au bout d'un moment, des gens ont fini par me connaître, se rendre compte que je centralisais pas mal de repères au niveau du cidre. Dans le même temps, je parcourais les vergers, et puis peu à peu, ben, en 1900... Alors, ça demande du temps. Ouais, en 1985, je me suis dit, il faut créer quelque chose. Donc j'ai créé la structure qui n'existait pas dans le département, avec des collègues qui m'ont dit, écoute, nous on aime bien le bon cidre, si tu as besoin de nous, on est prêt. Et donc en 1985, on a déposé les statuts du comité cidricole, en fait, qui est devenu syndicat cidricole très vite. Et donc on a travaillé avec le Finistère, d'ailleurs pas mal, mais ça s'est appelé Cidrec Trégorguelo au départ. On est devenu Cidrec Côte d'Armor. Au départ, on a regroupé toutes sortes de gens qui s'intéressaient à la question du cidre. On a fait aussi des concours à Guingamp pour médiatiser tout ça. Mmh. Et puis, il y avait une émulation quand même. Le lycée de Kernilien s'est mis aussi à faire une vulgarisation, une formation de vulgarisation pour les gens qui ne savaient pas trop ce qui se passait là-dedans. En fait, c'était fait de façon tellement empirique. Je pense que beaucoup ne savaient pas trop. Il y en avait qui soutiraient, d'autres qui ne soutiraient pas, d'autres qui ceci. Alors chacun y allait de sa méthode. Et au bout d'un moment, par le biais de... On a mis en place Alain Page, qui était le technicien cidricole de Kernilien. Il était déjà enseignant là-bas. D'accord. Et puis peu à peu, on a réussi à structurer tout ça. Il y a eu une production qui a été faite là-bas. Pendant ce temps-là, il y avait des productions qui étaient faites chez les gens, et puis on comparait. Et quand il y avait la foire de Guingamp, on faisait des concours. Mmh. Alors après, on est venu, on a aussi développé le côté eau de vie.
D'accord.
Parce qu'en fait, on est dans une zone où on a toujours fait de l'eau de vie. Les traces existent, les témoignages existent, tout ça, ça existe. Donc, il fallait aussi...
Retranscrire l'histoire aussi, et ne
ouais,
pas
voilà.
perdre ça.
Ben oui, mmh. c'est ça. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a ouais. participé à la création de la structure qui a travaillé avec l'INAO pour établir les appellations Pommeau de Bretagne, Eau de Vie de Sud de Bretagne. C'est vrai qu'on a eu des moments agréables, des moments... Et puis, avec les Normands, ça s'est très, très bien passé. Ouais. On avait des producteurs de qualité en Normandie, d'excellents producteurs, notamment dans le Pays d'Auge. J'en avais des... On peut les citer, c'était Léon Desfrièches, Pierre Huette et d'autres comme ça, qui étaient d'excellents producteurs, avec qui on a toujours eu d'excellents rapports, et des gens très très sympas,
ouais.
qui nous ont jamais marginalisés. Hein. Non, c'était... Et on allait aux réunions, aux assemblées de l'INAO tous ensemble. Hein. Puis il y avait aussi en Bretagne Pierre Sesnec, Guy Lelay, notre copain qui vient de décéder, qui était un super copain aussi. Et puis tous les autres, Claude Gouenvec, et puis je ne sais plus combien.
C'était le petit groupe, quoi.
Ouais, ouais, c'était très sympa, une très bonne équipe, un bon esprit, et puis bon, toujours la Bretagne en toile de fond, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ah, oui, ça c'était important, ça. Et ça l'est toujours, d'ailleurs.
On peut aller faire un tour à la cidrerie, peut-être.
Ah, ouais, ouais.
Et puis je vois qu'il y a les vergers juste là en face, en plus.
Oui, oui.
Alors ces vergers-là ont été plantés en février 92.
Février 92, d'accord.
Ouais,
tous donc, les pommiers qui sont là.
Oui. Ouais. J'avais planté en 48 heures, j'avais tout préparé avant. On avait planté 650 pommiers, je crois, 4 hectares. J'avais aussi le verger de mon grand-père, j'en avais un autre à Plourand, puis au bout d'un moment, j'ai ralenti un peu.
Ça faisait beaucoup à gérer.
Oui, puis bon, de temps en temps, faut... Oui, oui, de temps en temps, faut s'occuper des enfants, faut s'occuper de sa femme, faut s'occuper de...
Et du coup, là, il y a combien de variétés différentes dans le sein du verger?
Alors, ici, on a... J'en ai une vingtaine, quoi. Il y a un petit verger que j'avais fait à côté, un petit, qui m'a permis de tester les variétés. Je l'ai greffé, et puis je faisais des essais, puis si elle marchait pas bien, bon, hop, on enlevait la variété, et celle-là, c'est pas la peine... Ou elle a une maladie, ou elle ne se plaît pas.
Elle
ne
se plaît pas ici,
chose.
Tout simplement. Quoi.
Donc, je faisais un surgreffage et je remettais une autre variété dessus.
D'accord.
Ouais, ouais. Ah ben oui, parce qu'il faut greffer, puis il faut observer. Alors j'avais fait aussi ce que j'ai transmis d'ailleurs à Dominique Biche, le technicien du département. J'avais fait un inventaire, le pédigré des variétés que j'estimais être des variétés locales. J'avais fait le pédigré en me disant... Il est fait, comme ça, la variété est parfaitement définie, époque de floraison, fragilité, densité, maladie, tout ça c'était fait, tous les critères. Puis après, je dis, si la variété ne vaut rien, bon, c'est pas grave, au moins le travail est fait, quoi. Et il en est resté pas mal, puisqu'on les utilise toujours aujourd'hui. En voilà une. Alors ça, la Hyacinthe David ici, ça c'est une variété qui est typique d'ici et qui marche très bien ici et qui ne se plaît pas ailleurs.
Alors c'est
une variété qui a une histoire très étonnante. Elle vient d'un capitaine de long cours, comme toujours des capitaines de long cours ici. C'était Jean Derrien, Le beau-père de oui. Yassine David, qui aurait ramené les greffons de cette variété-là de San Francisco.
Ouais.
C'est une variété qui est assez grosse, qui se tient bien, qui a une maturité qui est très étalée, puisqu'elle est capable de mûrir à peu près du 15 octobre jusqu'au 15 décembre. Elle ne pourrit pas facilement, elle a des polyphénols et des acides tanniques.
D'accord.
Elle charge pas mal aussi, puisqu'on a des productions entre 200 et 400 kilos sur un seul arbre. Hein. Ça fait quand même du...
Ah oui,
ouais.
L'ossature de l'arbre.
Voilà. Alors, c'est des arbres qui sont énormes.
Il en restait que 3 à 5.
Il en restait que 3.
Et M. David, Hyacinthe, était décédé, lui, ouais. Et sa femme a donné les
sa femme...
Tu as sauvé la variété.
Et j'ai sauvé la variété.
Et en accord avec la dame, ouais. Jacques a donné le nom. Elle était très émue, là. Nom de son mari, Hyacinthe David.
Et elle me dit, tu feras l'essai en monovariété. C'est une pomme qui fait un excellent cidre en monovariété. Et une année, il y a 4 ou 5 ans, j'arrive à la fin de l'année, j'avais plus de pommes, sauf cette variété-là. Ouais. Et il en restait à peu près 4 tonnes. Je les ai mises à mûrir, et mûrissaient très lentement. Et je les ai amenées jusqu'au fin janvier, je crois bien. Et puis quand elles ont été mûres, je dis, j'ai pas le choix, de toute façon, j'ai que ça. Bon, on fait une fournée avec. Et puis on l'a mis en bouteille. On a fait une cuvée de 3000 bouteilles. Et j'ai rien dit à personne pour voir comment il allait être perçu.
D'accord.
À l'aveugle.
Ouais.
Tout le monde l'a trouvé excellent. Et au bout du compte, je dis, elle avait raison. La mère de la femme de Yassine David, elle avait raison. Le cidre était excellent. Ça, c'est un local construit en 2002. Ça, c'est la contribution au réchauffement climatique. On n'avait jamais ça. On a ça depuis 3-4 ans pour réfrigérer les moûts quand on les fabrique. Si on ne le fait pas, on presse le matin, le soir, ils sont partis en fermentation, terminé. Donc c'est un tank à
l'air. C'est un tank à l'air.
Double pot avec moteur électrique et puis la régulation. Quoi. Mais on a loupé des cides à un moment. Je dis, mais en 50 ans, je n'ai jamais eu de problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe quoi. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que on montait en température. En plein mois de décembre, on monte à 13 degrés maintenant ici.
Ouais.
C'est beaucoup trop chaud. Quoi. Quand j'ai à peu près 30 hectos qui sont bien réfrigérés entre 7,5 et 8, je peux les lâcher là-dedans avec la masse est froide et donc la coagulation va se faire comme il faut.
D'accord.
Donc ça marche. Tout ce qui est... Ça, c'est pour le cidre. Ça, c'est les cuves pour la fabrication du cidre.
D'accord, ouais.
Voilà. Et puis l'autre qui est là normalement. Ceux-là aussi, d'ailleurs. Les gros contenants, c'est tout pour le cidre.
Donc tout étant, en fait, fermenté, élevé en bois, quoi.
Ah oui, tout est élevé sous bois. Ouais. Il y a que le passage au froid pendant les deux jours de fabrication, quoi.
Mm-hmm.
Mais autrement, tout est fait sous bois. Ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est que on cultive cette souche de cave, cette empreinte qui fait la caractéristique du produit et qui se véhicule par le biais du bois. Le bois régule, prend ce qui est reçu de l'année d'avant, le redistribue à l'année d'après, ainsi de suite. Alors on a gardé la terre battue parce que la terre battue nous rend service au niveau de la flore indigène, quoi. Et
Participe justement à cette empreinte gustative.
Ben bien sûr, parce que je dis souvent, moi j'ai vu des gars qui ont des caves aseptisées, tellement aseptisées que le jour où il y a un parasite, il trouve la place libre à l'intérieur pour faire tout ce qu'il veut, quoi.
Ouais.
Alors qu'ici, la place est déjà occupée. Moi, j'ai pas de système, il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de truc comme ça, et ça se passe très bien. Mais ça veut dire qu'il faut que les pommes soient bien mûres. Les structures pectines, la pectine, il faut qu'elle ait une forme colloïdale. Pour qu'elle ait une forme colloïdale, il faut que la pomme soit bien mûre, il faut que tout soit prêt. Il y a un point de maturité. Ne serait-ce que quand je vois des gens qui fabriquent des cidres avec des pommes, ils savent même pas ce qu'ils ont mis dedans. Moi, je peux remonter 30 ans en arrière sur chaque barrique qui a été faite ici. J'ai le pédigré partout. Et quand j'ai eu des problèmes avec un cidre, je dis, tiens, telle année, j'ai les conditions de temps du printemps et donc de l'été, donc la typicité de la récolte. Et j'ai mes mélanges et mes trucs. Et puis des fois, j'ai dit, tiens, problème de ceci, cela, solution, tac, j'ai écrit la solution que j'ai trouvée. Mmh. Mais je me reporte à mes archives, et je retrouve et je peux remonter 30 ans en arrière, je les ai toutes. C'est une cuvée particulière dans la mesure où elle est faite avec des pommes de moisson, des vieilles variétés que j'ai sauvées de chez mon grand-père et le grand-père d'avant. Et puis, elles sont toujours mûres trop tôt et les autres pommes ne sont jamais mûres quand je voudrais les mélanger avec. Sauf que l'année dernière, le hasard a fait que les pommes primes ont réussi à mûrir plus longtemps et les autres ont mûri avant. J'ai pu faire un assemblage que je ne peux jamais faire.
Ah ben voilà, magnifique.
Alors, ça donne un sacré truc.
D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle les pommes de moisson? C'est les pommes
Gisnest. Le site de moisson.
C'est les premières pommes, finalement.
Eh bien oui, qui sont mûres à partir du 15 août, et puis qui vont jusqu'au 15 septembre, à peu près. Quoi.
Okay.
Et ce qu'il faut pour faire un assemblage, c'est que les autres qui sont mûres à partir du mois d'octobre, eh ben, qu'elles arrivent à mûrir un peu plus vite, et on arrive à faire un assemblage. Et c'est ce que j'ai réussi à faire pour la première fois depuis 50 ans.
Comme quoi, il aura fallu attendre 50 ans.
Ouais. Déjà, on voit au niveau de la couleur.
Ah, ça, c'est un orangé intense. Ah, il est magnifique.
Je n'ai pas pensé faire de la gelée de cidre, ça peut être de façon.
Ah, ouais, ça a la couleur de la gelée.
Oui, ouais, tout à fait.
Bon, ben, Yermat. Hein.
Yermat.
Allez.
Merci. Yermat. C'est hyper intéressant parce que là on a une acidité aussi qui est présente. L'inconnu, on a de la fraîcheur, mais en même temps on a un côté très gourmand en même temps.
Ouais, il y a un sacré truc dedans. C'est étonnant, hein.
Oh, la finale.
Pas mal, hein.
Oh, comme ça revient, on a l'impression que ça y est, c'est parti.
Ouais, ouais.
Ah, et ben non.
Non, il y a de la longueur et puis la rémanence, quoi.
Ouais. C'est un côté orange amer, comme ça. Ah, ça c'est chouette.
Trouve bien le. Parce que ces pommes-là, je les ai dans le bas du verger ici. Hein, j'en ai. Il y a même des gens sur le bord de la route qui rentrent dans le verger pour les manger, tellement ils les trouvent bonnes. C'est sympa. Mais elles ont. Toutes seules, ce serait du fiel, quoi. Mais coupées avec les autres, quand j'arrive à en avoir, voilà ce qu'on arrive à faire, quoi.
Ouais, pour amener peut-être le côté un peu plus structure.
Ah oui.
Et garder quand même quelque chose d'assez frais et vif,
ouais,
quoi.
Mais ouais. Mais elles sont vachement tanniques.
Puissant, hein.
Ben en même temps, moi, ça me met l'eau à la bouche, quoi. On a envie de manger un petit magret de canard aux agrumes, là.
Ouais, tout à fait.
Une petite note fumée, là, qui...
Ouais.
Et on ne le met jamais au frigo, notre cidre. Hein.
Les gens me disent à quelle température on le sert. Ben, je vais vous dire. Je le dis aux gens. Non, mais ce que je leur dis, dans le temps, la longère était face au sud. Le cellier était face au nord, derrière. Il était plus bas que la maison. Donc, les fenêtres étaient ouvertes au sud pour avoir la lumière et un peu de chaleur. Le cellier derrière, il était bas, il était sous le faîtage de la maison, donc il voyait que le nord. Et en plus, et les fûts étaient longs à cause de ça, pour loger les fûts en dessous. Et ben, la température, c'est celle du cellier, c'est tout.
Voilà. Celui-ci est vraiment très très bon.
Oui.
On appelle un peu l'abricot aussi. On a vraiment mangé.
Ah, si, puis il se décompose bien. C'est vrai que le côté abricot, là.
On le mâche.
C'est tout ça. On arrive à.
Moi, j'aime bien dans vos cidres, comme on l'a goûté, alors on va sûrement le regoûter pour voir la différence, mais.
Oui. Après, là.
Ce côté très ample, très vineux, cette pâte vineuse qui prend vraiment de la place. Elle est tellement délicate, toute fine.
C'est pour ça qu'il faut le. Nous, on dit aux gens, hein, c'est pas compliqué, le cidre est fait, d'accord, mais il y a minimum 6 semaines, voire plus de. On a fait des cidres qui sont restés pratiquement 2 mois avant de faire un léger pétillant.
Oui, il faut laisser le temps au temps.
Et on avait à un moment des cidres pratiquement sans bulles. On le faisait beaucoup. Et parce que je faisais des cidres un peu plus demi-secs, et si bien qu'ils avaient une fin de fermentation qui devait être limite problème acide lactique, mais qui n'allait pas plus loin. Mm. Et on avait des cidres qui étaient bon comme ça, très peu de pétillants, très fruités, mm. très. Oh là là.
Presque un
vin. Ouais, on l'a fait. Il y a des gens qui nous avaient dit, on dirait du sauterne votre truc.
Ouais,
là.
Ouais.
Il nous l'avait dit.
Voilà. Ouais, sur la complexité aromatique. C'est vrai qu'on a des notes vraiment de fruits confits, des petites épices.
Ouais.
Limite un côté un peu sous-bois comme ça.
Ouais.
Et cette touche fumée, moi je trouve là-dessus, elle est pertinente.
Et ce qu'on a de bien maintenant qu'on a les fûts, parce que les anciens fûts que j'avais commencé à être vieux, c'est aussi pour ça qu'on avait changé. Mmh. J'avais des fûts de 1500 litres, mais qui étaient en châtaignier.
Et
qui commençaient à être vieux. Quoi. Ouais. Je sentais que ça commençait à poser problème. Mmh. Et là on retrouve un boisé qui est très subtil et qui n'est pas. On le sent à peine. On s'amuse comme des petits fous avec nos trucs.
C'est génial, j'adore. Vous ennuyez pas, hein, en effet.
Non, l'idée du boujaron comme du cidre d'ailleurs. Est-ce que derrière tout ça, il y a une idée qui est celle que j'ai depuis le départ, c'est de faire la preuve qu'on a ici un terroir qui tient la route, qui permet de faire des produits de qualité. Et donc, l'expérimentation a été faite, maintenant il faut développer. Que ceux qui veulent se lancer le fassent. Moi, c'est tout ce que je demande, mais rien d'autre. Moi, je ne suis pas là pour me remplir les poches. Et ce que je souhaiterais, c'est que des gens s'impliquent et puis ils disent, on va monter un projet là-dessus, mais ce projet n'aura de valeur et d'existence que s'il reste sur le créneau qualité, tel qu'il a été défini, et c'est la tentation peut être grande pour certains d'aller vers du banal.
C'est ça.
Et de perdre l'esprit de la chose.
Poker pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro !
Que vous avez bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.